Vous écoutez
RMC.
Et comme tous les matins, on remonte le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
C'est aujourd'hui la fin du deuxième tour de Roland-Garros. C'était qui Roland-Garros ?
Eh bien, Roland-Garros, ça n'était pas du tout un tennisman. C'était un pionnier de l'aviation. Donc, c'était un aviateur du début du XXe siècle. En 1913, c'est le premier pilote à traverser la Méditerranée en avion. Et quand la Première Guerre mondiale commence, donc en 1914, il part au combat. Une guerre où il va se distinguer comme un as des airs. Mais pas seulement, puisqu'il conçoit le premier avion équipé d'une mitrailleuse au milieu de l'hélice. C'était une révolution. Et en 1918, il va mourir au combat, abattu en plein vol.
Comment le nom de cet aviateur se retrouve à être le nom d'un tournoi de tennis ?
Alors, pour comprendre, il faut remonter aux origines de ce tournoi de tennis. Apolline, nous sommes dans les années 1920 et la France veut un stade digne de ce nom pour accueillir la finale de la Coupe Davis. Le projet est confié à un homme qui vient du rugby, le président du Stade français. Il s'appelait Émile Le Sueur. Sauf que Roland Garros avait été un ami de ce Émile Le Sueur. Donc, il va imposer son nom pour le nouveau stade. L'inauguration a lieu en 1928 et à partir de cette date, les internationaux de France se tiendront donc à Roland-Garros.
C'était déjà sur la terre battue ?
Alors, à l'origine, les terrains de tennis, c'est en gazon et c'est normal hein, puisque ça vient d'Angleterre, un pays de gazon. Et les premiers terrains construits en France, ça sera sur la Côte d'Azur, à côté de Cannes, à la fin du 19e siècle, puisque c'est l'endroit où les Anglais venaient en vacances. Sauf que là, on va se rendre compte que le climat méditerranéen n'est pas du tout adapté au gazon. Donc, on imagine une nouvelle surface, un mélange de terre cuite et de briques pilées, l'ancêtre de la terre battue, et c'est avec cette surface qu'on va donc faire Roland-Garros.
Et bien sûr, des joueurs vont se forger une légende autour de Roland-Garros.
Bah oui, des joueurs parfois très capricieux, Apolline. Par exemple, prenez Roger Federer. Il a l'air très détendu comme ça. Quand il a gagné son premier Roland-Garros en 2009, il a eu une demande un peu spéciale. Il a voulu passer la nuit avec la vraie coupe. En principe, c'est interdit puisque on donne au vainqueur une réplique de la coupe, hein, pas la vraie coupe des mousquetaires. Mais comme c'était Federer, le tournoi a accepté de la lui laisser pour la nuit. On a même mis deux agents de sécurité devant sa chambre d'hôtel pour protéger la coupe. Mais il y a mieux, puisqu'en 1980, le joueur Jimmy Connors exige des dirigeants de Roland-Garros qu'ils organisent une rencontre entre sa femme, une ex-playmate, et le pape Jean-Paul II, qui était en visite en France.
Mais non.
Eh bien, figurez-vous que la rencontre a été organisée, puisqu'à Roland-Garros, rien n'est impossible.
Roland-Garros, c'est aussi des caprices de stars dans les tribunes.
Bah oui, un événement mondain incontournable, y compris pour les étrangers. Et le plus grand caprice de l'histoire du tournoi, c'est celui de la duchesse de Kent, qui était la cousine de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Pour venir au tournoi dans les tribunes en 1984, elle a exigé d'avoir ses propres toilettes. Mais attention, c'est pas fini, puisqu'il fallait en plus que la cuvette soit recouverte de tissu.
Mais non !
Voilà, c'était une exigence du protocole. Eh bien, son vœu a été exaucé. Mais vous savez quoi ? Elle n'a même pas été aux
toilettes. Mais non ! Mais ces toilettes existent toujours, donc j'en déduis.
Je ne sais pas.
Les toilettes de la reine, enfin de la cousine de la reine. Roland Garros, évidemment, merci à Arthur. Et puis Roland Garros, c'est à suivre sur RMC et sur notre radio digitale RMC 100% Terre battue. Merci Arthur.